Aujourd'hui, la facture d'orgue. C'est un artisanat d'art et il existe, semble-t-il, depuis l'Antiquité. Bien évidemment, c'est un métier qui a évolué au cours de l'histoire. Vous savez bien que nous avons la chance d'avoir dans notre cathédrale de Sarlat un très, très bel orgue. Et parmi nos adhérents, celui qui vient de s'exprimer tout à l'heure, Bernard Potvin, qui est organiste et qui se dévoue pour faire connaître ce bel instrument. Et je suppose que vous assistez souvent à l'orgue au marché le samedi pendant toute la période d'été. Alors, c'est Olivier qui va nous présenter cette conférence. Vous êtes un passionné depuis l'âge de quoi, 13 ans, 14 ans, pour l'orgue, la musique, et puis aussi pour tout ce qui contribue à créer un orgue, et depuis toute votre vie, je crois.
Depuis Mathusalem.
Disons
que j'ai été baigné tout petit pour des raisons familiales, de par mon papa qui était organiste, comme Bernard, sauf qu'il était amateur, ce qu'on appelle un bon amateur. Et très jeune, j'ai commencé vers l'âge de 10 ans à m'intéresser à la musique. Et puis plus tard, je passe les étapes, je me suis intéressé à la facture d'orgue vers 14-15 ans à peu près, ce qui est jeune, effectivement. Et depuis, je n'ai jamais quitté le milieu,
suffisant.
Que ce soit le milieu organistique ou évidemment plus particulièrement, je me sens évidemment musicien très très amateur, hein, parce que bon, j'ai un tout petit niveau et
je vais aller
pas vraiment le temps. Mais très, par contre, très facteur d'orgue, ça oui, évidemment, puisque c'est mon métier. Voilà, donc Olivier Chevron, donc, comme je disais, j'ai commencé à m'intéresser à la musique à l'âge de 10 ans, à la facture d'orgue vers 14-15 ans. À 18 ans, je suis rentré en apprentissage, chez plusieurs maîtres d'apprentissage, puis ouvrier, puis chemin faisant, c'est devenu une passion. Et puis en 2002, je décide de m'installer à mon compte. Je crée ma propre entreprise, tout d'abord tout seul, ensuite avec un apprenti, puis plusieurs ouvriers, etc. Et puis en 2019, Bertrand Catiot, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce confrère, me passe un petit coup de fil et me dit « Écoute Olivier, on se connaissait très bien, est-ce que tu veux reprendre la boîte ? J'ai envie de reprendre ma retraite. » Retraite méritée. Évidemment, je lui dis « Accorde-moi quelques mois de réflexion, parce que ça demande de la réflexion, de reprendre une boîte aussi connue, aussi prestigieuse, aussi importante. Et évidemment, il aurait été malvenu, enfin je le considère de ma part, d'avoir fait un refus. Voilà. Donc j'ai accepté de reprendre le flambeau. Donc voilà. Donc facteur d'or, c'est un métier d'art. Ça, c'est de l'artisanat, ça oui. Pour rappel, l'artisanat, qu'est-ce que c'est pour moi à mes yeux, c'est quelqu'un qui fabrique des choses et qui vend le produit de son art. Enfin, de ce qu'il produit. L'art, c'est encore un autre niveau. Alors, la définition de l'art, c'est compliqué. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'art ? Pour moi, dans l'art, il y a une notion de il ne faut pas rentrer l'argent en ligne de compte. Mais en même temps, on est aussi... moi, je suis entrepreneur. Et comme je dis souvent, il faut aussi remplir le frigo, il faut payer les salariés. Donc l'argent, forcément, rentre en ligne de compte. Donc en fait... Qu'est-ce que c'est un facteur d'orgue, en tout cas un chef d'entreprise facteur d'orgue, c'est un artisan qui fait de l'art, mais c'est aussi un entrepreneur. Voilà. Et c'est évidemment, heureusement, une passion. Voilà. J'ai été invité par l'association pour faire cette petite conférence. Donc, vous me pardonnerez, je ne suis pas du tout maître conférencier. Je suis qu'un simple et modeste petit artisan qui fait ce qu'il peut dans son métier. Donc je vais essayer de vous le présenter de manière le plus naturellement possible par le biais de ce diaporama qui m'a été prêté par M. Potvin, que je remercie vivement. Donc je vais le commenter, le compléter, etc., etc. Alors là, je pense que vous connaissez ces deux instruments, puisqu'ils sont à la cathédrale, le grand orgue à gauche, l'orgue de chœur à droite. Donc petite parenthèse, le grand orgue a été restauré par Bertrand Catiot, je ne sais plus quelle année, il y a une vingtaine d'années. 2005, voilà. Le petit, alors je ne sais pas si c'est du hasard, c'est moi-même qui l'ai construit, en sous-traitance pour Bertrand Catiot, à l'époque, où j'étais déjà installé à mon compte. Donc, oui, par là. Donc, j'ai fait une partie, lui, il l'a complétée. Enfin, ça a été, voilà. Donc, c'est une création pure. Donc, c'est pas un orbe complètement neuf, mais la partie qu'on voit est neuve. Alors, dans les églises, il y a essentiellement deux positions d'orgue, en fond de tribune, comme on voit là, et l'orgue de chœur. Bien souvent, on pense évidemment à l'orgue en fond de tribune. Ici, c'est un cas particulier parce que la tribune est ce qu'on appelle accrochée, une sorte de nid d'hirondelle, parce que c'est accroché au mur. Et parfois, les orgues ont des piliers, donc c'est posé au sol. Voilà. Bon, là, c'est une cathédrale. Il y a des orgues pour les églises, pour les temples protestants, pour malheureusement trop peu souvent des salles de concert en France. Il faut savoir que dans les années 1920, 1930, il y avait énormément d'orgues dans les salles de concert, les théâtres et même les cinémas. Je pense à l'orgue du Gaumont Palace à Paris, qui a disparu, évidemment. Mais cette mode, si je peux m'exprimer ainsi, a complètement disparu. Donc, à l'étranger, on trouve beaucoup d'orgues dans les salles de concert. En France, c'est timoré. Ça commence à revenir, mais gentiment. Voilà, je passe parce qu'après, le temps va manquer. Alors, l'histoire de l'orgue commence par dans l'Antiquité grecque. Alors, moi, j'ai envie de commencer cette conférence par poser une question. Qu'est-ce que c'est qu'un orgue? Alors, moi, j'ai ma définition, évidemment. D'autres en ont une autre. La mienne est très simpliste et je vais vous en parler modestement en vous racontant une petite histoire, une histoire vraie. Effectivement, dans les années 300 avant notre ère, il se trouve qu'en Alexandrie, alors je rappelle qu'une invention, ça n'est pas comme ça du jour au matin, quelqu'un qui se réveille, tiens, je vais inventer un truc. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est toujours le fruit du hasard, l'accumulation de plusieurs demandes. Donc, ce qui s'est passé 300 ans avant Jésus-Christ, en Alexandrie, on le sait parce qu'il y a des écrits, il y a des choses qu'il raconte. Il y avait un instrument de musique qu'on appelait l'holos. Alors l'holos, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancêtre du hautbois, qui était joué, et ça on le sait, exclusivement par les femmes. On ne sait pas pourquoi, mais c'était comme ça. On le sait par les poteries, c'est toujours des femmes qui jouent cet instrument de musique. Et on le sait par d'autres éléments, que cet instrument était difficile à jouer, et surtout abîmait les lèvres des musiciennes. Donc parfois on voit sur les poteries une espèce de peau qui entoure la bouche, et ensuite la personne mettait l'instrument à la bouche pour protéger les lèvres. Et par ailleurs, on a d'autres documents où on sait que les femmes se plaignent qu'elles abîment leurs lèvres. Donc, et encore un autre document, on sait qu'il y a une riche une princesse, on ne sait pas qui, mais une riche princesse d'Alexandrie, qui demande justement à ses ingénieurs de l'époque de trouver une solution à ça. Donc elle fait appel à tous ses ingénieurs, notamment les ingénieurs en hydraulique. Alors, on parle souvent des Romains, mais évidemment, effectivement, les Romains étaient très forts en hydraulique, mais pas que, les Grecs aussi étaient très forts en hydraulique. Et il y a un certain Ctésibios, c'est difficile à prononcer, Ctésibios. Si vous voyez dans les campagnes, au fond du jardin, alors il a inventé plein de trucs autour de l'hydraulique, dans le fond du jardin, le puits avec la pompe, là, qu'on manœuvre comme ça, vous avez tous vu ça, eh ben, c'est Ctésibios qui a inventé ça. Donc, il a inventé ça de trucs, et il a l'idée de prendre une grande vasque en cuivre, il remplit de l'eau à moitié, il prend une autre vasque plus petite, il la met à l'envers, il fait un trou, c'est un peu, arrêtez-moi si vous trouvez ça compliqué, et il appuie, l'air s'échappe. Forcément, ça fait de la pression sur l'eau, l'air s'échappe. Et il place sur ce trou un holos. Donc on a une note. Donc il s'est dit, une note, on va pas loin avec ça, on fait pas de la musique. Donc il décide d'en placer plusieurs, donc plusieurs trous, avec un système de réglettes. Je fais simple, vous avez une réglette en bois, vous avez deux réglettes en bois. Alors c'est posé comme ceci, mais je vous le montre comme ceci, avec deux trous. Si les trous correspondent, l'air passe. Si les trous ne correspondent pas, l'air ne passe pas. Donc il met, on ne sait pas, peut-être 3, peut-être 5, peut-être 7 tuyaux, on n'en sait rien. En tout cas, il met plusieurs tuyaux, et par le biais de cette réglette, il peut faire actionner plusieurs notes différentes. Et bien, pour moi, l'orgue, c'est ça. C'est extrêmement simpliste. C'est-à-dire qu'il faut de l'air sous pression. Ah oui, ce qu'on appelle du vent. J'en parlais tout à l'heure à table. Pour moi, quelle est la différence entre l'air et le vent? Vous connaissez le vent dehors, évidemment, quand ça souffle. Et pour moi, c'est de l'air sous pression qui a un mouvement. Alors, s'il est soufflé, par exemple le compresseur, ça souffle. S'il est aspiré, l'aspirateur. C'est du vent aussi, un aspirateur, mais à l'envers. Donc, pour moi, pour faire un orgue, il faut quoi ? Du vent, si possible, maîtrisé. Il y a une pression, il y a un débit. Et il faut plusieurs tuyaux et un système pour pouvoir actionner tel ou tel tuyau. Alors, à partir du moment où on a ça, on a un orgue. Donc, évidemment, alors ça, c'est à l'époque, l'orgue marchait. Aujourd'hui, ça marche avec des soufflets. Un soufflet, c'est un petit peu comme un accordéon. Vous l'avez peut-être vu, on le verra tout à l'heure sur les photos. Mais à l'époque, c'était hydraulique, c'était de l'eau. J'essaie de passer rapidement parce que sinon... je passe plein de détails sur l'historique. Donc c'est cet instrument hydraulique qu'on appelait l'hydrôle disparaît de l'Occident après la chute de Rome. On ne sait pas trop, vers 300, 400 ans après Jésus-Christ. Et ensuite, il réapparaît en 767. Alors peut-être avant, on ne sait pas. En tout cas, on a un écrit. On sait qu'en 767, on a un indice. Il y a l'empereur de Byzance qui offre un instrument à Pépin le Bref, roi français ou des Francs. Faut comprendre qu'à cette époque-là, quand les riches seigneurs offraient des choses, ben on offrait des bijoux, des terres, et là, il offre un orgue. C'est dire l'importance de la chose. Extrêmement rare. C'est le cadeau suprême. Il offre un orgue. Le temps a bien changé. Voilà. Donc, évidemment, tout ça, ça évolue. On met plus de tuyaux, on met plus de touches. Le vent est davantage maîtrisé. On remplace la cuve en eau par des soufflets. Pourquoi ? Parce que ça permet de mieux maîtriser le vent. Et surtout, c'était difficile parce que c'est un instrument qu'on trimbalait, qu'on transportait un peu partout dans les grandes seigneuries pour amuser les soirées. Donc, on mettait de l'eau partout, ça fuyait. Donc, la solution, c'était les soufflets. Voilà. Une date importante, alors on ne sait pas trop, là c'est marqué 10e, 14e siècle, bon, j'irais plutôt entre le 9e et le 12e, 13e siècle, enfin, c'est difficile à dire parce que ça, les choses évoluent lentement. On intègre l'orgue dans les églises, et ce qui est étonnant, c'est qu'on a des écrits, on sait qui utilisait les orgues à l'époque. C'était les érudits de l'époque, c'était les moines. Et donc c'est pour cette raison qu'on met les orgues dans les églises. Mais ce qu'on sait d'ailleurs, c'est paradoxal, c'est qu'à l'époque, les moines n'avaient pas le droit, n'avaient pas l'autorisation de jouer les orgues pendant l'office. Ils le jouaient comme ça, à leur temps libre. Ça, c'est étonnant. Et on ne sait pas trop à quel moment c'est apparu vraiment dans l'office, beaucoup plus tardivement. Voilà. Donc la facture d'orgue a beaucoup évolué, évidemment. Les principes de fonctionnement pour arriver à les orgues qu'on connaît aujourd'hui, Sarlat, Notre-Dame de Paris, etc. Alors, la facture d'orgue, c'est un métier qui demande énormément de... Je ne veux pas dire des sous-métiers, mais c'est une multitude de métiers qu'on doit acquérir. Pour reprendre une anecdote que me racontait un de mes maîtres, que je racontais aussi à midi, Jean Le Boisseau, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui était un facteur d'orgue extrêmement connu et apprécié de tous. Il disait « 3 vies ne suffiraient pas pour faire le tour du métier ». Bon, et ce n'était pas de la fausse mésétie. Je mesure à quel point il avait raison de dire ça. C'est un métier, on apprend toute la vie. C'est ce qui fait que c'est passionnant aussi. Donc, il faut être architecte, quelque part. Donc, ça, c'est surtout pour les instruments neufs. J'ai oublié de dire au tout début de mon intervention que le métier regroupe trois facettes. La construction des orgues neuves, la restauration des orgues anciens, donc par exemple l'orgue de Sarlat, le grand orgue, et l'entretien. Parce qu'évidemment, les instruments, si on ne les entretient pas, ils dépérissent, il faut les accorder de temps en temps. C'est évidemment pas l'organiste qui l'accorde. Pour vous donner un ordre d'idée, l'orgue de Sarlat, donc j'ai la chance de pouvoir l'entretenir. À chaque fois qu'on vient pour faire l'entretien, on vient trois fois par an, je crois à peu près, on n'accorde pas tout, on accorde juste les jeux qui se dérèglent le plus. Donc on y passe une journée. Mais pour accorder un orgue de cette envergure, tous les tuyaux, 2580 tuyaux, voilà, merci. Je connais mal mon sujet, désolé. Mais vous, par contre, vous connaissez très bien votre orgue. Accorder un orgue comme ça, complet, il faut 2 semaines. 2 semaines de boulot. Donc j'imagine bien que ce n'est pas l'organiste qui fait ça. Voilà, donc il faut être architecte pour les orgues neuves. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On nous demande de réaliser un instrument quelque part. On est devant notre page blanche. Il faut dessiner un visuel, il faut dessiner un projet musical. Qu'est-ce qu'on va y mettre dedans ? Qu'est-ce qu'on va jouer ? Donc tout ça, c'est une discussion qu'on fait souvent avec le musicien. Et puis c'est un échange, parce qu'il y a 1000 façons de construire un orgue. Je rappelle, il y a 12 000 orgues en France, il n'y en a pas deux identiques. En Allemagne, il y en a à peu près 70 000, on ne sait pas trop exactement, à peu près. Alors, c'est un autre pays. Mais on pourrait en construire 500 000 si on voulait, différent. C'est illimité. Donc on discute du projet avec le musicien, on se met d'accord, donc on élabore un projet, une conception. Le lieu de destination, est-ce que c'est un conservatoire, une église, une salle de concert, un temple protestant, ou que sais-je. Synagogue, ça existe. À Paris, il y a des orgues dans les synagogues, ça existe. Les particuliers aussi, on n'y pense jamais, mais parfois les musiciens, bon, il faut un peu d'argent, hein, et une grande pièce. Quelques particuliers ont un orgue à la maison. D'ailleurs, c'est marqué là, le type orgue d'études. Donc, orgue d'études, c'est un orgue à la maison, en fait. Comme son nom l'indique, c'est pour étudier, c'est pour apprendre. Donc, c'est pas un instrument de concert, mais c'est pour apprendre. De salon, c'est la même chose. Orgue de cœur, on en a parlé. Grand orgue, on en a parlé. Le nombre de registres. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un registre ? C'est l'équivalent d'un instrument de musique, en fait. Si on prend la comparaison avec l'orchestre symphonique, bah vous avez deux violons, vous avez des violoncelles, vous avez des contrebasses. Bah un violon, c'est un instrument de musique. Une contrebasse, c'est un instrument de musique. Et bien, l'organiste, quand il se met au clavier, bon, il a bien sûr un ou plusieurs claviers, mais il a aussi des petites tirettes à droite, à gauche. Et quand il tire une tirette, eh bien, c'est comme si le chef d'orchestre disait « Tiens, toi, le violon, tu te prépares. Tu joues pas. Tant que je joue pas sur les notes, sur les touches, tu joues pas. Mais par contre, tu te prépares. Je tire la tirette, le violon, par exemple. » Si le violon est préparé, ben, quand l'organiste joue, alors du coup l'organiste est aussi chef d'orchestre, ça joue. Donc il peut tirer le violon, la trompette ou la flûte, enfin ce qu'il veut. Rappelez-moi le nombre de registres à faire là. Le nombre de registres.
37.
Voilà. C'est comme si l'organiste avait 37 musiciens. Et il décide de faire fonctionner un tel avec un tel, il fait sa sauce. Voilà. Alors le style, évidemment, si on a un orgue de style français, romantique, germanique, espagnol, italien, anglais, que sais-je, américain, canadien, chaque pays a son propre style, évidemment, et destiné à une musique très particulière. Évidemment, en France, nous, on aime bien l'orgue français, c'est normal, restons chauvins. Mais j'aime bien aussi les orgues espagnols, italiens, qui ont leur caractère, et ça n'a absolument rien à voir. Le type de mécanique. Si c'est une mécanique classique, donc comme au grand orgue de Sarlat, aujourd'hui on a des artifices comme l'électricité. Dans certains orgues, tout dépend des projets. On fait encore aujourd'hui des instruments mécaniques, mais lorsqu'on nous demande de faire des commandes électriques, on le fait aussi. Alors l'avantage de l'électrique, c'est qu'en fait quand on appuie sur une touche, il n'y a aucune mécanique, mais la liaison de la transmission se fait par un courant électrique. L'avantage, c'est que le toucher est beaucoup moins dur. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a plus de toucher. Qu'est-ce qu'on appelle le toucher ? Bernard le sait mieux que quiconque. Quand on appuie sur une touche d'un orgue, la plupart des gens nous disent « Oui, c'est contrairement à un piano, c'est on-off. Ben, » Ce n'est pas vrai du tout. Un orgue, ce n'est pas on-off. Il y a une soupape qui s'ouvre, comme une voiture, et la manière d'appuyer sur la soupape, rapidement, lentement, ou pas, ça crée une dynamique qui se répercute directement dans le tuyau et ça se répercute directement dans la musique, dans le son. Donc effectivement, quand on a un électrique, une commande électrique, bah c'est on-off. Voilà. Donc moi, personnellement, je suis contre, parce que pour moi, c'est un instrument de musique. Comme je dis souvent, on ne demandera jamais à un luthier de fabriquer un violon avec, au lieu de l'archet, un bouton on-off. Bon, bah, j'exagère un petit peu, parce que ce n'est pas la même chose. Mais quand même, pour moi, l'orgue, alors lorsqu'on nous le demande, on le fait, hein, mais je ne suis pas fan. Voilà. C'est, pour moi, un instrument de musique, ce n'est pas on-off. Voilà. Donc, on choisit la composition. Qu'est-ce qu'on appelle la composition ? Ben, c'est le nombre de claviers, la répartition des registres, des jeux, je rappelle, les instruments de l'orchestre, sur chaque clavier. Alors, pourquoi plusieurs claviers ? Ben, tout simplement parce que chaque clavier a une fonction propre. Pour faire simple, alors chaque clavier a un nom. À Sarlat, on a un clavier qui s'appelle le grand orgue. C'est le deuxième clavier en partant du bas. C'est là où sont placés les jeux les plus forts, les plus graves. C'est l'assise de l'orgue. On a un second clavier qui est le premier clavier, celui du bas, qu'on appelle le positif de haut. C'est le... Si je reviens... Voilà. Le grand orgue, donc, il est là. ce qu'on appelle le positif de dos, c'est le petit buffet qui est là, là, et l'organisme se trouve entre les deux. Donc ça, c'est le positif de dos, ça correspond à un clavier. Le clavier de positif de dos, qui est, c'est le reflet du grand orgue, mais en plus secondaire, et avec des jeux, mais Bernard en parlera mieux que moi, des jeux plus aigus, peut-être, plus fins, plus, voilà, plus petits, moins graves. Et puis d'autres claviers, alors, par exemple à Sarlat, on a ce qu'on appelle un récit. Le récit, c'est pour faire les récitatifs. Voilà. On accompagne avec la main gauche et avec la main droite, on fait un petit chant, un récitatif. Voilà. Et puis d'autres claviers, j'en passe, parce que on va en parler pendant des heures. Il faut s'adapter à l'espace, évidemment. Quand on arrive sur un lieu, moi, le premier truc que je fais, bah, visuellement, je regarde l'espace, mais surtout, visuellement, en fait, par mes yeux, je l'entends. J'entends le volume sonore, j'entends l'acoustique. Il suffit de marcher, de parler, frapper dans les mains, peu importe, et on entend la résonance. Et déjà, ça nous aiguille dans le choix de la construction de l'orgue, vers quoi on va l'orienter. Pour faire simple, moi j'ai remarqué que, par exemple, les églises avec des coupoles, c'est très mauvais au niveau acoustique. Les églises gothiques, donc très hautes, très fines, ça marche très très bien pour les orgues, pour les orgues symphoniques. Bon, c'est des petites remarques personnelles. On sait que certaines acoustiques, une acoustique plus sèche fonctionne davantage pour des orgues de style germanique. Après, ça n'empêche pas de faire des orgues français si on souhaite, mais disons que c'est plus propice. Bon, ça, on le sent, les choses. L'espace, et puis bah, l'emplacement de l'orgue, est-ce qu'on le met en fond de tribune, est-ce qu'on le met dans le chœur, est-ce qu'on le met ailleurs Et tout ça, c'est aussi évidemment en corrélation avec le clergé, puisque c'est et le commanditaire, la mairie ou les DRAC, si c'est une cathédrale. On dessine un visuel. Alors aujourd'hui, il y a deux écoles dans le visuel du buffet, soit un buffet totalement classique de type Sarlat, ou de type complètement moderne. Encore une fois, nous sommes des architectes, hein, donc on est ouvert à tout. Moi, j'aime bien les deux, donc voilà. La base du métier, c'est le travail du bois. Et pas que, on verra tout à l'heure, il y a d'autres matériaux, mais c'est vraiment la base du métier. Donc on se réfère aux métiers qui existent, qui sont connus, bah, c'est les charpentiers, les menuisiers, les ébénistes, les sculpteurs. Mais on a un métier qui est vraiment particulier à notre métier, il faut savoir construire des mécaniques en bois. Je fais souvent le comparatif d'un orgue avec une maison, ou une voiture. Dans un orgue, il y a des planchers, il y a des toits, il y a des couloirs, il y a parfois des escaliers pour les très gros orgues, comme dans une maison. Il y a plusieurs pièces. Ou la voiture, il y a un mécanisme, il y a un carburateur, il y a des soupapes, il y a des pistons, il y a des leviers. Voilà. Et à ma connaissance, bon, peut-être que je connais mal les autres métiers, la facture d'orgue, c'est le seul métier où on construit des mécaniques en bois. Parce qu'évidemment, le mécanicien, lui, c'est en métal, c'est en acier, c'est à ma connaissance. Alors, peut-être que j'oublie certains métiers, c'est possible, mais bon. Donc, il faut savoir construire un buffet. Donc ça, c'est la menuiserie, l'ébénisterie. Il faut être sculpteur, il faut être charpentier aussi, parce que dans les très gros orgues, il faut une assise. Le buffet ne suffit pas pour supporter toutes les pièces qui sont à l'intérieur. Je rappelle, parce que je disais aussi à midi, combien de fois on m'a dit « Ah oui, il y a aussi des choses à l'intérieur ». Bah oui, non mais c'est plein comme un œuf à l'intérieur. Il y a les 2600, je sais plus combien de tuyaux, ils sont là. Hein. Les mécaniques, les soufflets, il y a quelque chose derrière. Et souvent c'est plein comme un œuf. C'est vraiment c'est serré. Donc faut savoir construire un buffet. Les tuyaux de bois. Alors il y a plusieurs familles de tuyaux dans les orgues. Alors il y a la famille des sifflets. C'est le principe de la flûte à bec, donc c'est un sifflet avec un résonateur. Donc souvent les tuyaux sont en métal et parfois en bois. Et puis il y a ce qu'on appelle les anches. Alors les anches, c'est une languette qui vibre. Alors j'ai pas de réglet, mais souvent je prends l'exemple, je mets un réglet au bord d'une table et puis je fais vibrer. Voilà, ça fait un son d'aller et venu, une vibration. C'est un jeu d'anches. Donc un jeu d'anches, c'est quoi? C'est une clarinette. C'est pas une trompette, attention, parce qu'il faut pas faire l'amalgame. Parce que dans l'orgue, on a certains jeux qui s'appellent des trompettes, qui sont des jeux d'anches. Mais l'instrument de musique trompette, c'est pas un jeu d'anches, c'est pas un instrument à anches. La clarinette, oui, le hautbois, ça, ce sont des instruments de musique à anches. Et dans l'orgue, donc, on a des flûtes et des anches. Alors majoritairement des flûtes. Et parmi les flûtes, majoritairement des tuyaux en métal, ce qu'on appelle du métal. Alors, ce n'est pas du fer, ce n'est pas de l'acier, hein. Ce n'est pas de l'aluminium. C'est toujours un alliage étain-plomb. Et selon le son qu'on recherche, on mettra plus ou moins d'étain, plus ou moins de plomb. Par exemple, la façade de l'orgue de Sarlat, elle est très riche en étain. Et si on veut un son plus... Donc ça donne un son très clair, très... une belle assise. Si on veut un son plus feutré, avec moins de couleurs, plus doux, on mettra plus de plomb. Ou on choisira le bois, pourquoi pas. Donc dans tous les orgues, il y a les tuyaux en métal et les tuyaux en bois. Selon les époques, on va dire ce qui s'est passé en Ancien Régime, donc avant la Révolution, c'était plutôt en chêne, en France en tout cas. En Allemagne, c'était plutôt des résineux, parce qu'ils ont plus de forêts de résineux. Et tout ce qui s'est passé après, donc plutôt au 19e, c'était, les tuyaux étaient plutôt en sapin, en pin, des choses comme ça. Donc il faut construire la mécanique. Alors la mécanique, qu'est-ce que c'est? C'est des leviers. Si je fais ce mouvement-là, c'est un levier. Par exemple, si j'appuie sur le clavier, il y a une tringlerie qui tient ça. Il faut aller chercher une soupape qui va ailleurs. Donc il y a un levier. Si je tire là, ça pousse. Je résume. Il y a des équerres. Donc c'est la même chose que le levier, mais à l'équerre, pour envoyer le mouvement, non pas en hauteur, mais en largeur. Voilà, c'est des éléments mécaniques. J'en ai pas sous les yeux, mais je crois qu'il y en a dans les photos, je ne me rappelle plus. Donc voilà les tuyaux de bois, par exemple. Donc ça, c'est des tuyaux neufs. Donc on aperçoit... ça, c'est le corps du tuyau, si je prends ce tuyau. Ici, c'est le pied. Le vent arrive par ce trou et il arrive à l'intérieur. On ne voit pas, là, c'est le fameux sifflet, il est là. Et donc, il y a une partie du vent qui sort par là et une partie qui sort par là pour des tuyaux ouverts. Mais il arrive parfois, et là, c'est le cas, vous avez un tout petit manche, là, les tuyaux sont bouchés. Tout ça pour obtenir un son différent. Alors souvent, on me dit, mais pourquoi il y a autant de jeux dans un orgue? Pour moi, pour plusieurs raisons essentielles. C'est-à-dire que plus on met de jeux, plus c'est puissant. Mais aussi, une raison encore plus importante, c'est que les tuyaux ont des formes différentes. Donc selon la forme, le timbre diffère. Donc ce qu'on cherche, c'est d'avoir un maximum de timbres différents. Comme dans l'orchestre, tout simplement. Donc là, on aperçoit quelqu'un qui range les tuyaux. Donc ça, c'est du chêne. C'est le mout, effectivement. C'est un de mes employés. Voilà. Alors là, on aperçoit une mécanique. Alors, c'est pas facile à expliquer. Donc ça, c'est pris dans l'orgue de Sarlat. On appelle ça l'ensemble. Ah, zut, pardon. Mauvaise manip. Voilà. L'ensemble de tous ces éléments mécaniques, on appelle ça un abrégé. Alors, ça porte bien son nom. Abrégé, pourquoi? J'en reviens, je suis l'organiste. Je joue une note, une touche, j'appuie sur la touche, ça fait descendre une tringlerie. Il faut aller chercher une soupape, c'est comme une voiture, hein, mais qui se trouve à 10 mètres. Ma tringlerie, elle ne peut pas aller directement comme ça, comme un tuyau d'arrosage. Hein. Donc, il y a une sorte de rouleau qui tourne comme ceci, avec une patte en fer là, une patte en fer à l'autre bout. C'est axé comme ceci. Si j'appuie sur la touche, il y a une tringlerie qui vient s'accrocher à la petite patte là. Ça fait basculer la touche comme ceci. Et ça la fait basculer à l'autre bout. Et ça va tirer la soupape qui se trouve à 10 mètres. Je ne sais pas si c'est clair. Voilà. Donc ça abrège en fait. Ça abrège la division du clavier à une division beaucoup plus large. D'où le nom abrégé. Tous les orgues ont des abrégés. Sauf évidemment les orgues à transmission électrique. Donc ça peut paraître complexe comme ça. Ah zut, encore, je vais y arriver. Je rappelle, je ne suis pas maître de conférence. Voilà. Ça on appelle ça un rouleau. Ça c'est un rouleau avec les deux petites pattes, une là et une là. Et donc il y a autant de rouleaux que de notes au clavier. Et tout ça, ça s'enchevêtre ensemble, c'est de manière... très ordonné, ça peut paraître fouillis comme ça, mais c'est extrêmement ordonné, et vous inquiétez pas, on s'y retrouve. Voilà. Donc ça permet, c'est écrit là, ça permet de relier les soupapes au clavier. Alors voilà ce qu'on appelle la console. Alors qu'est-ce que c'est la console, hein? C'est pas une petite console qu'on met contre un mur avec un joli pot de fleurs. C'est à la maison, c'est, en termes de l'orgue, c'est le cockpit d'avion, on va dire ça comme ça. C'est là où l'organiste s'assoit, c'est là où il y a, donc, Tout ça s'appelle la console. Donc ça regroupe les claviers. Là, on est à Sarlat, donc il y en a quatre. Ça regroupe les fameux instruments de musique qu'on appelle les jeux. On aperçoit le mot trompette. flûte de 4 pieds, bourdon de 16 pieds, grosse tierce, doublette, etc. Ça, c'est des noms typiques de l'orgue. On a un pupitre, on le voit pas, mais un banc, et on le voit encore moins à ce niveau-là, un pédalier. Qu'est-ce que c'est un pédalier ? C'est la réplique d'un clavier avec des touches un peu plus larges qui permet de jouer avec les pieds les basses de l'orgue. Quasiment tous les orgues ont un pédalier, sauf les tout petits instruments et italiens, par exemple. Mais, voilà, ça, donc c'est la console. Alors ici, c'est marqué les touches sont en tilleul, avec des revêtements. Alors on l'aperçoit ici, le tilleul, là, dans l'ombre un petit peu. Là. Parce qu'il faut dire que les touches, ce qu'on voit là, c'est ce qui dépasse. Mais en fait, une touche, c'est un levier. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un piano, mais les touches sont très courtes, elles sont à peu près comme ça. Ça fait un levier, en fait. Quand on appuie sur les touches, ça fait monter le marteau qui va frapper sur la corde. Eh bien, nous, les touches sont beaucoup plus longues. Dans un orgue, les touches sont comme ça. Donc, elles rentrent dans l'orgue. Donc, elles sont vraiment... Ça fait le double de longueur de ce qu'on voit, là, en fait. Donc, ça rentre jusque-là, à l'intérieur de l'orgue. Donc, les touches sont en tilleul. Alors, c'est un peu foncé, mais ce qu'on appelle les touches naturelles, donc c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, pour ceux qui sont musiciens, c'est plaqué. Alors, à Sarlat, c'est plaqué en ébène, mais ailleurs, très souvent, c'est en os. Ça peut être dans d'autres bois. Ça peut être en buis. Moi, j'aime bien le buis pour certains instruments. Et ce qu'on appelle les feintes, donc c'est les dièses et les bémols, rehaussées d'une petite plaquette en os. Alors là, c'est pareil, c'est le cas à Sarlat, mais ailleurs, c'est autrement. Chaque instrument est différent. Alors là, on voit un sculpteur à l'œuvre, ou une sculptrice, j'arrive pas à... Peu importe, oui. Voilà. Voilà. Bah, que dire, là, elle est en train de sculpter. Alors, elle a collé une partie... j'essaie de commenter, j'étais pas à l'époque. J'essaie de commenter, je devine la photo.
C'est la restauration de 2005.
Ouais, donc on a le buffet de Sarlat, et il manquait une pièce ou une pièce était abîmée, je ne sais pas. Donc elle a collé une partie neuve qui déborde, et ensuite, une fois que c'est bien sec, eh bien, elle prend sa gouge et puis elle sculpte le manque en prolongement du fragment de sculpture qui, lui, est intouché. Donc là, on a du mal à voir, mais on voit qu'elle est au début de la sculpture, là. Voilà. Alors, je parlais des autres matériaux ou des autres métiers, hein, le travail du métal, donc je rappelle ce qu'on appelle le métal dans nos métiers, c'est pas du fer ou de l'acier, c'est un alliage étain-plomb, toujours. Parfois, rarement, mais c'est quand même assez rare, du cuivre. Rarement aussi du zinc, mais ça donne pas un son très agréable. Vraiment, l'idéal, c'est l'étain et le plomb. Donc, il faut fondre. Parce qu'en fait, les tuyaux, ils n'arrivent pas comme ça chez nous, tout près. Donc il faut les construire, ces tuyaux. Donc en fait, on commande chez un fondeur un lingot de plomb, un lingot d'étain. On met tout ça en fusion. Et selon ce qu'on cherche, ben, on met plus ou moins de plomb, plus ou moins d'étain. On a des appareils pour mesurer ça. On appelle ça le titrage, le pourcentage en fait d'étain et de plomb. Une fois qu'on a obtenu le bon, tout ça c'est en fusion. Le bon mélange, eh bien, donc ça c'était la fonderie, eh bien, on coule. Donc on coule, alors, je crois qu'il y a ça sur les autres, voilà. Alors le métal, on le voit là, il est en fusion dans une sorte de casserole. Donc l'opérateur verse le métal en fusion, c'est magnifique à voir d'ailleurs, hein, si vous avez l'occasion un jour de voir du métal en fusion comme ça, de l'étain en fusion, c'est des reflets bleutés, c'est magnifique. Il met ça dans une espèce de grande écuelle, évidemment étanche, qu'on appelle le râble. Et ce râble, en fait, quand la température atteinte, qui doit être très précise, est atteinte, eh bien, il décide de déposer... En fait, il avance son râble, de là jusque là, et il dépose le métal qui forme une feuille. Donc, cette feuille, elle est très fine. On peut la doser plus ou moins avec plus ou moins de précision. Grosso modo, ça fait un millimètre d'épaisseur. Voilà. Et selon si c'est des gros tuyaux ou des petits, ben on va fondre plus fin ou plus large. Le problème, c'est que quand on coule, la précision n'est pas extrême. Nous, quand on a besoin de construire le tuyau, il nous faut une précision extrême. C'est plus qu'au dixième d'épaisseur près, dixième de millimètre près. Il faut vraiment selon si c'est des gros ou des petits tuyaux. Donc une fois que ça c'est fondu, eh bien il faut le raboter. Alors là on le voit pas sur l'image, mais on a imaginé que donc la personne est là, la feuille est coulée, elle est refroidie depuis longtemps. Il mesure avec une sorte de palmaire. Un palmaire, c'est un peu comme un pied à coulisse qui mesure très précisément l'épaisseur. Et l'épaisseur, d'ailleurs, n'est pas forcément régulière. Elle peut avoir une certaine épaisseur là, une autre là, une autre là, une autre là. Parce que quand on coule, c'est loin d'être évident d'obtenir une épaisseur très régulière. Selon la température de chauffe, selon la vitesse où on avance, il y a toujours des à-coups, c'est jamais régulier. Je rappelle que c'est pas mécanisé, ça. Il y a eu des... On pose souvent la question de tentatives de mécanisation, parce que fabriquer des tuyaux, c'est extrêmement long, extrêmement coûteux. Et les rares personnes qui s'y sont penchées s'y sont cassées les doigts. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on mécanise ce geste, ça ne fait pas des bons tuyaux. Et ça s'entend dans le son. Il faut vraiment faire ça à la main. Il n'y a pas d'autre solution. Et donc, du coup, c'est irrégulier. Alors, on ne le voit pas sur l'image, mais on a un peu comme un rabot de menuisier, un truc long comme ça. Et puis on rabote. On rabote jusqu'à temps qu'on ait la bonne épaisseur. Une fois qu'on a quasiment atteint la bonne épaisseur, parce que le coup de rabot, ça donne un côté pas forcément nickel, lisse, on rend racloir, c'est même racloir que celui des menuisiers, on racle pour le rendre plus lisse, jusqu'à temps qu'on ait la bonne épaisseur. Une fois qu'on a atteint la bonne épaisseur, on découpe les tuyaux dedans. Donc en fait, si on veut un diamètre de X, on multiplie par 3,14 et on a la circonférence. Donc on découpe des rectangles. Alors c'est très malléable, on le tord avec les doigts, le métal. Donc c'est très malléable. On a ce qu'on appelle des formes, donc c'est des espèces de tubes en acier de plein de diamètres différents à l'atelier. On forme le tuyau découpé, le rectangle, sous ces formes. Ensuite, on fait un chanfrein sur l'arrière. Et déjà, on a un cylindre parfaitement cylindrique, hermétique. Ça, c'est la partie haute du tuyau. La partie basse, si vous avez remarqué, c'est souvent conique, comme ça. Comme dans... Je peux revenir sur les tuyaux de façade du grand orgue. Oui, on ne voit pas bien, il faudrait zoomer. Là. Enfin, si, on voit un petit peu. Là. On a une partie cylindrique, là. Si je prends ce tuyau-là, le central, je ne sais pas bouger. Ça, c'est le Parkinson. Hein. On a une partie conique, qu'on appelle le pied. Donc c'est le même principe, sauf qu'au lieu de développer un rectangle, on développe un triangle. Et ensuite, je résume, parce que ces opérations, c'est beaucoup plus long que ça, on soude ce qu'on appelle le biseau. Alors le biseau, c'est l'équivalent de la langue sur du corps humain. C'est ça qui va former le son. Le biseau, pour faire simple, c'est une petite plaquette de métal qui fait le même diamètre que le tuyau, qu'on soude sur le pied, et qui laisse dégager ce qu'on appelle une lumière, donc c'est une ouverture pour que le vent passe, évidemment. On appelle ça le biseau. Donc on soude le biseau sur le pied, et ensuite on soude le corps, donc le cylindre, sur ce qu'on vient de souder, et déjà on a un tuyau qui est fabriqué. Alors évidemment, ce tuyau, il est brut visuellement, il ne donne aucun son. Donc il faut le travailler, ce son, ce qu'on appelle l'harmonisation, on verra ça tout à l'heure. J'en étais où ? Je parlerai de l'harmonisation après. Je reviens sur le travail des tuyaux. C'est marqué, donc on les rabote, on les racle, on les roule, on les soude. Donc les matériaux employés, l'étain, le plomb. Alors ce qu'on appelle l'étoffe, c'est l'alliage étain-plomb. Alors selon les écoles, il y en a qui disent c'est 50-50, il y en a qui disent non, c'est 30%. Bon, ça c'est... L'étoffe, c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. Le cuivre, à Sarlat, il n'y en a pas, mais parfois, dans les orgues, il y a des tuyaux en cuivre. Et aussi en zinc. Voilà. Donc là, on a vu la fonderie, le coulage. Donc là, on voit ici l'opérateur qui est en train de... Il prépare la soudure, en fait, il a déjà son cylindre, là. Et il commence à rapprocher les parties pour que ce soit vraiment les deux parties à souder très très proches, de manière très précise. Et une fois que ça s'est bien approché, il fait un chanfrein et ensuite il soude. Et c'est soudé à l'étain, à la main. Là aussi, il y a eu des tentatives de mécanisation. Et alors là, c'est encore pire que la fonderie, hein. C'est une catastrophe. Hein. Mais tout le monde a tout essayé, il faut tout essayer. Hein. Les ors coûtent tellement cher que bon, faut faire des tentatives, mais c'est catastrophique. Donc aujourd'hui, bah, tout le monde fait ça à la main. Hein. Alors on travaille la peau aussi. Alors la peau, où est-ce qu'il y a de la peau dans un orgue? Ben, les soufflets, par exemple, on a besoin de peau. Vous voyez tous comment c'est fait, un accordéon ou un soufflet de forge, ben, c'est la même chose. Donc il y a ce qu'on appelle des éclis, c'est les parties en bois rigides, et il faut à un moment donné quelque chose qui fasse charnière et étanchéité. Alors il y a souvent une partie à l'intérieur, une partie à l'extérieur. La partie à l'intérieur qu'on appelle la charnière, souvent c'est fait en parchemin. À Sarlat, c'est fait en parchemin. Dans les orgues plus tardifs, romantiques, etc., c'est plutôt en toile. Mais ça, c'est pas étanche. Ça maintient les éclisses physiquement. Et pour l'étanchéité, de l'autre côté, eh bien, on le verra tout. Je ne sais pas si tout de suite, on le verra. Voilà. Donc ça, c'est une charnière intérieure. On voit, vous voyez, la couleur, c'est pas tout à fait couleur bois. En fait, c'est un peu transparent. C'est du parchemin qui a été collé sur cette partie qu'on appelle l'éclisse, qui est en chêne. Et la partie extérieure, qui ici, la partie blanche, ça, c'est de la peau d'agneau. Ça, pour le coup, c'est pour l'étanchéité. Donc il faut deux choses, solidité, évidemment souplesse, et étanchéité. Là, on aperçoit ce soufflet qui est en partie gonflé. Et ici, ils sont pas gonflés du tout. Mais on aperçoit les traits parallèles, ce sont les éclisses. Et quand le soufflet, là actuellement ça fait deux parallèles comme ça, quand le soufflet sera monté, il montera comme ceci, de forme cunéiforme, hein, en forme de coin. Voilà. Donc Sarlat, c'est comme ça. À Sarlat, il y a une particularité. C'est que, bon, c'est un orgue ancien, donc évidemment, quand il a été restauré, le but, c'était de retrouver les sons originels. Et pour cela, il faut le vent d'origine. Donc ça veut dire des leviers, parce que l'électricité n'existait pas à l'époque, hein, donc les soufflets, fallait bien les monter par quelqu'un, qu'on appelle le souffleur, ou plus vulgairement le pompeur. Voilà. Donc il y a un type qui... Oui, je ne sais pas si vous apercevez, il y a trois leviers là, avec un truc qui relie les soufflets, et donc ça fait bascule, ça fait levier, et quand on tire là-dessus, eh bien ça fait monter le soufflet. Donc, et c'est très physique. Et non seulement c'est physique, mais pour l'avoir expérimenté sur d'autres instruments, en essayant moi-même de souffler pour l'organiste qui jouait, c'est physique et délicat. C'est-à-dire que quand on appuie sur le levier, déjà, il se crée une dépression dans le vent, ça s'entend. Donc l'organisme n'est pas content si on a des secousses. Et quand on relâche, également. Et moi, je sais que... Enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai. Quand je faisais ça, faut tirer très doucement. Ensuite, on a tout le temps pour... Il ne faut pas faire de secousses, en fait. D'y aller vite. Et ensuite, au relâcher, il faut y aller doucement. Et à chaque fois, en fait, moi, j'écoute la musique. Et je relâche ça sur un temps fort. Ou en début de mesure, ou... je fais mon action en fonction de la musique que j'entends. Et ça, c'est super important. Et tout le monde ne fait pas ça. Et voilà. Alors, ce qui est particularité à Sarlat, la particularité, c'est qu'évidemment, on vit au XXIe siècle. Donc, on ne va pas demander à un pompeur, un souffleur. Je rappelle, c'est extrêmement physique. C'est lourd à tirer de faire ça pendant 3 heures. Et donc, on a, comme dans tous les orgues, une solution électrique, donc il y a un moteur, c'est un ventilateur, c'est une hélice qui tourne, ça marche de manière électrique, ça envoie du vent dans les soufflets, donc les soufflets se montent d'eux-mêmes par ce vent, et donc il n'y a plus besoin du souffleur. Et il y a une troisième particularité qui est encore plus spéciale ici, c'est assez rare, il y a quelques orgues en France où il y a ça, mais c'est quand même très rare, parce qu'en fait, le problème du ventilateur électrique, c'est que ça crée un vent complètement différent. Pour faire simple, ça crée un vent beaucoup trop régulier. On entend les bruits d'air, la turbine qui tourne, et ça se ressent directement dans les tuyaux. Et donc, ce qui se fait, il y a une alternative, c'est une mode, mais pas que, parce que ça coûte très cher, malheureusement, à mettre en place, c'est ce qu'on appelle un lève-soufflet. Il y en a peut-être qui sont montés là-haut, qui ont vu ce système. En fait, c'est un système, ça marche par de l'air, mais il y a aussi de l'électricité. C'est un système qui permet non pas d'envoyer de l'air dans les soufflets, mais électriquement de lever les leviers. Ce qui est très différent, parce que du coup, l'air qui se trouve à l'intérieur n'est pas emmagasiné par une turbine qui crée des perturbations. C'est emmagasiné de manière naturelle. C'est une bonne solution, mais c'est une solution qui coûte très cher, et donc c'est rarement employé. En tout cas, vous avez la chance d'avoir ça à Sarlat. Donc en fait, on a les trois solutions à Sarlat. C'est ça qui est merveilleux. Alors, il faut évidemment des connaissances acoustiques. Alors ça, en général, c'est le travail du chef d'entreprise, donc c'est moi. C'est pas forcément les ouvriers qui s'intéressent peuvent s'y intéresser, mais en général, c'est quand on règle un orgue, c'est la ce qui en ressort, c'est un peu comme un luthier, c'est la patte de celui qui va le construire. Si moi je construis un orgue, si un confrère construit exactement le même orgue, il aura un son complètement différent. C'est évident. Donc en fait, on règle les sons en fonction de notre culture, de ce que demande l'organiste, évidemment, de l'acoustique, de l'oreille, de plein de trucs. C'est extrêmement subjectif. Je vais vous raconter un truc. Combien de fois il m'est arrivé de travailler toute une journée sur le réglage sonore, et puis je suis fatigué, je me dis, oh, c'est pas terrible ce que je fais, là, je vais reprendre ça demain matin. Et puis j'arrive le lendemain matin, oh, c'est quand même pas mal ce que j'ai fait hier soir. Hein. Ou même l'inverse, d'être très content le soir, et puis je reviens le lendemain matin, oh, c'est quand même pas terrible ce que j'ai fait. Donc c'est-à-dire que un être humain, moi ou un autre, c'est déjà extrêmement subjectif. Donc vous imaginez d'un individu à un autre, comme j'ai dit souvent, vous interrogez 100 organismes, vous aurez 100 avis différents. C'est évident. Et les facteurs d'orgue aussi. Donc c'est extrêmement empirique. Donc il faut évidemment connaître l'acoustique, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, donc la forme de l'église, comment ça sonne, où est placé l'orgue, quel est le besoin aussi, est-ce qu'il y a du monde à la messe, ou est-ce qu'il n'y a personne. Tout ça, on va régler l'orgue de manière différente, évidemment. Donc il faut connaître les timbres, évidemment, il faut associer l'oreille au geste. Faut avoir aussi des connaissances musicologiques, évidemment, l'histoire de la musique, d'où l'idée, ce que je disais au tout début, c'est que je me sens très facteur d'orgue, mais lamentablement organiste, mais ce lamentablement me permet de comprendre des choses. Que si je n'avais pas ce petit lamentablement organiste, je pense que j'exercerais mon métier autrement, et certainement moins bien. Je fais une petite parallèle, c'est peut-être un peu prétentieux de la faire, mais Jean-Sébastien Bach, qui était le musicien, le compositeur qu'on connaît tous, on le sait, il était considéré comme expert en orgue à l'époque. Mais bon, il était amateur, mais il avait des oreilles, voilà, et il expertisait des orgues. Mais je suis certain qu'il était incapable de construire un tuyau ou construire un buffet, c'était pas son métier, chacun son métier. C'est un peu prétention comme parallèle, mais comme comparaison, mais je me sens un peu comme ça. C'est-à-dire que moi, c'est l'inverse. Je suis très facteur d'orgue, mais lamentablement organiste. Mais c'est important. L'histoire de la facture d'orgue, évidemment, parce que quand tout le monde demande de faire un style très précis, il faut connaître parfaitement tous les styles. Il faut connaître parfaitement tous les styles. C'est un peu compliqué. Parce que d'ici, il y en a plein. Alors, il y a l'époque. Est-ce que c'est un orgue... si on fait du neuf, par exemple... alors, les questions, si ça vous voulez bien, ça, après. Mais je serai tout prêt à y répondre. Pardon ?
On a encore un bon quart d'heure.
Ça va. Bon. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Qu'est-ce que... J'ai perdu le fil. L'histoire de l'orgue, oui, il y a des centaines de styles différents, parce qu'il faut prendre en considération l'époque. Est-ce que c'est un orgue du 17e ? Est-ce que c'est un orgue du 10e, 19e, du 20e, du 21e ? Dans le 18e, est-ce que c'est début, milieu, fin 18e ? Ça, c'est l'époque. Le pays, est-ce que c'est un orgue italien ? Est-ce que c'est un orgue espagnol ? Est-ce que c'est un orgue français ? Et même en France, combien de fois je dis souvent, entre un orgue typiquement français du nord de la France et un orgue typiquement français du sud, il y a un fossé. Donc le style, le facteur d'orgue qui l'a construit, si c'est une restauration, ou si on fait une œuvre dans l'esprit de un tel. Le un tel qui, évidemment, au cours de sa carrière, aura évolué. Si on prend n'importe qui, on parle de l'épine, par exemple, au début de carrière, ses orgues de fin de carrière étaient différents. Bon, tout ça, c'est tout un tas de trucs qui fait que il y a 1000 façons de concevoir un orgue et la porte est ouverte à plein de solutions qui n'ont jamais encore été tentées. Alors, je ne sais pas si je peux parler. Alors, là, le travail d'harmonisation, voilà, je voulais y venir. Ben là, on a Bertrand Cattiot de dos, là, qui est là, avec Helmut. Et là, c'est Bertrand Cattiot aussi, qui est sur un objet, c'est un outil de travail, on appelle ça un mannequin. Qu'est-ce que c'est un mannequin ? C'est un orgue en miniature, c'est un outil de travail qui permet de dégrossir le travail du réglage du son, le travail de l'harmonisation. Donc en fait, il a un clavier, pour faire simple, alors c'est pas joli, hein, parce que c'est pas le but, c'est un outil de travail. Il a la fameuse turbine, le ventilateur, là, le soufflet ici, la mécanique, on la voit pas, mais elle est dessous, le clavier, et le sommier, ah oui, on n'a pas parlé des sommiers. Qu'est-ce que c'est un sommier ? C'est la pièce maîtresse de l'orgue, c'est le cerveau de l'orgue. C'est toutes les données, pour faire simple, toutes les données qui arrivent, que l'organiste donne quand il joue, quand il tire les jeux, quand il allume le ventilateur, tout ça, ça va au sommier. Et dans ce sommier, il y a plein de trucs, il y a des soupapes, il y a des canalisations, il y a des règles, des coulisses, tout un tas de trucs, c'est très compliqué. Et ensuite, c'est dispatché sur le tuyau. Voilà. Donc ça concentre les informations de l'organiste et ensuite, ça les dispatche sur les tuyaux. Donc c'est ça, on aperçoit le sommier, c'est cette grande caisse là. Ben, d'où ce que je disais avant, donc c'est dessous, donc le clavier, les jeux qui sont là, alors on les voit mal, mais le vent, et les tuyaux sont dessus. Donc là, ben, il prend les tuyaux un par un, et puis les règles. Je rappelle, c'est du métal très malléable, donc on a des outils très précis et très spéciaux. En fait, sur un tuyau, il y a, après, ça dépend des tuyaux, mais on va dire 5 ou 6 paramètres sur lesquels on peut intervenir. Chaque paramètre, on a par exemple des marteaux d'horloger, on donne un tout petit coup, ça ne se voit même pas à l'œil nu. Même si on prenait un appareil pour mesurer, je n'ai jamais fait, mais je suis sûr que ça ne bouge même pas d'un cinquantième de millimètre, eh ben, ça change le son. Toute la problématique, c'est que donc on peut tirer, il y a plein d'outils, il y a plein de paramètres sur lesquels on peut intervenir. Toute la problématique, c'est que dès qu'on change un des paramètres, ça modifie tous les autres. Donc il faut constamment revenir sur les autres. Et quand vous achetez une flûte à bec au magasin du coin, là, bah, votre flûte à bec, elle aura quasiment le même son partout dans le monde entier. Un tuyau d'orgue, c'est pas le cas du tout. Un tuyau d'orgue, il y a 1000 façons de le faire parler. Alors, encore une fois, quand moi je l'harmonise avec un confrère, qui ont les mêmes tuyaux, on peut prendre 30 confrères hein, qui ont exactement le même tuyau, eh ben, le tuyau le feront parler différemment. Et ça, les musiciens sont très sensibles à ça, évidemment. Et ça, c'est pour un tuyau. Jusque-là, c'est facile, c'est relativement facile. Sauf que pour faire parler un tuyau comme nous, on a envie qu'il parle, bah, parfois on a de la chance, bah, on y passe 2 minutes par tuyau, et parfois on a de la malchance, mais on est tenace. On veut absolument que ce tuyau il parle comme on a envie qu'il parle. Mais on n'y arrive pas, mais on continue jusqu'à temps qu'on y arrive. Et parfois, on peut passer sur les très gros tuyaux, mais 2 heures sur un tuyau. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Hein. Mais jusque-là, tout va bien. On a parlé d'un tuyau. Maintenant, on a tout un clavier pour un seul jeu, un seul instrument de musique. Il faut que tous aient une fréquence différente, évidemment, do dièse, ré dièse, etc., mais qu'ils aient le même timbre. Alors là, ça se complique, parce que on a eu toutes les peines du monde à faire parler un tuyau comme on voulait. S'il y a 56 notes au clavier, il faut que les 56 parlent de la même manière, ou d'une autre manière, mais progressive, selon ce qu'on souhaite faire. Ça commence à être compliqué. Jusque-là, tout va bien. Ça se complique quand il y a plusieurs jeux. Tous les orgues ont plusieurs jeux. Bon, on fait le premier jeu, on est content, on a passé un temps fou, mais on est content, on va se coucher, on revient le lendemain matin, et on se dit, tiens, on va faire le deuxième jeu. Allez, on fait le deuxième jeu, on y passe une journée ou deux. Très bien, on fait le troisième jeu. Et puis après, il faut que les jeux se marient entre eux. Je rappelle l'orchestre, il faut que les violons fonctionnent avec la contrebasse, etc., etc. Et combien de fois on se rend compte, ah merde, le premier jeu qu'on a fait, il est super. Le troisième, il est super. Mais ils se marient mal entre eux. Allez, on recommence. Et ça, c'est pour un clavier. Parce qu'après, certains claviers, il faut qu'ils fonctionnent entre eux aussi. Parce que chaque jeu correspond à un clavier. Donc, c'est un travail de titan. Voilà. Donc, quand je disais tout à l'heure, en aparté, qu'un orgue de Sarlat, imaginons qu'on me demande de faire le même en neuf, un orgue neuf, donc avec des tuyaux neufs, eh bien, ce travail d'harmonisation, ça va déjà me demander en préparation à l'atelier au moins 4 mois de travail, au minimum, et sur place, parce qu'évidemment, on harmonise ce qui a été fait en atelier, c'est juste dégrossi, parce qu'on ne tient pas compte de l'acoustique, on ne l'a pas, l'acoustique. Donc le travail en finesse se fait une fois qu'on remonte l'orgue sur place, en tenant compte de l'acoustique, et là, sur un orgue de la taille de Sarlat, on y passe facilement 3 mois, au moins. Au moins, au minimum. C'est juste du réglage, c'est tout. En finesse. Donc c'est un travail de titan. Mais une des qualités de la profession, c'est la patience et la ténacité. Sans ça, on peut pas, c'est pas possible. Voilà. Donc l'harmonisation, j'en parlais. Travail de précision qui demande beaucoup d'oreilles, évidemment. On travaille avec nos oreilles. Évidemment, c'est très subjectif, l'oreille. D'un individu à l'autre, on n'a pas la même oreille, on n'entend pas de la même manière. Mais tout ça, ça s'apprend. C'est souvent me dit, vous avez l'oreille musicale, vous êtes né avec. Bah non, non, c'est un truc, ça s'apprend. On a des prédispositions, ça c'est possible, effectivement. Vous avez des gens qui sont incapables d'harmoniser toute leur vie, malgré tous leurs efforts. Et puis d'autres, ça coulera tout seul, mais par contre, il faut quand même l'apprendre. Ça ne se fait pas comme ça. Donc il faut donner à chaque tuyau la note exacte, do, do dièse, etc. Le timbre, est-ce que c'est un son clair, est-ce que c'est un son pâteux, est-ce que c'est un son flasque, est-ce que c'est riche, est-ce que c'est pauvre, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est fort, est-ce qu'il y a une attaque qui est franche, est-ce que voilà, il y a mille façons d'harmoniser. Et c'est ce que je disais, en accord avec les autres jeux de l'instrument. J'en parlais tout à l'heure. Alors ça, c'était, on parlait de l'orgue neuf. Donc la deuxième facette du métier, c'est la restauration. Vous savez ce que m'avait dit mon maître d'apprentissage la première fois qu'il m'a vu. Donc j'étais jeune, j'avais 19 ans. Il m'a dit, tu sais la différence entre le neuf et la restauration dans notre métier ? Eh bien, c'est très simple. C'est deux métiers qui n'ont rien à voir, qui s'opposent complètement. C'est-à-dire que le neuf, on se met en avant. On est des créateurs. Alors que la restauration, on se met en retrait. On s'efface. Il ne faut surtout pas qu'on voit notre passage. C'est deux mondes complètement différents. C'est deux métiers qui n'ont rien à voir. Pour avoir pratiqué les deux, j'aime les deux facettes. Je me sens à l'aise dans les deux. Mais certaines entreprises se sentent plus à l'aise dans l'un ou l'autre. Bon, la plupart, on fait un peu des deux. Mais vous avez certains confrères qui font toute leur vie que du neuf et d'autres que de la restauration. Ça, c'est vraiment deux mondes différents. Et c'est vrai que par rapport à ce qui ressort souvent, je pense aux jeunes recrues, c'est que, mais ça c'est l'âge, moi j'étais comme ça aussi quand j'étais jeune. C'est vrai que quand on est jeune, on préfère faire du neuf. Ça c'est des stats. Et quand on est plus avancé dans le métier, on préfère faire la restauration. C'est comme ça, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est la nature humaine, c'est comme ça. Donc voilà. Donc la restauration, opération d'instrument qui permet de retrouver un état, bon, vous l'avez lu, hein, je ne veux pas commenter. Donc faut effectivement faire toujours des choix. Alors les choix, c'est en corrélation, c'est pas forcément le facteur qui décide de tout. Hein. Ça peut être l'organiste local, ça peut être quand l'orgue est classé, il y a de toute façon un expert en orgue. Quand il n'est pas classé, il peut y avoir un expert, mais ce n'est pas une obligation. Et quand c'est classé, donc comme ici c'est classé, il y a de toute façon un expert. Et en général, c'est l'expert qui décide. Bon, il demande à l'organiste, il demande à plusieurs personnes, souvent au facteur aussi. Enfin, c'est lui qui décide, c'est l'expert. C'est lui qui décide de l'ampleur des travaux. Est-ce qu'on fait une restauration ? Est-ce qu'on fait juste un dépoussiérage ? Est-ce qu'on fait juste un accord ? Est-ce qu'on va plus ou moins loin ? Est-ce qu'on fait juste ce qu'on appelle un relevage dans notre métier ? Un relevage, alors ça n'a rien à voir avec les relevages des façades des maisons. Ce qu'on appelle relevage dans notre métier, on va dire, c'est une restauration très minimaliste. Donc, est-ce qu'on fait un relevage ? Est-ce qu'on fait une restauration ? Et ça, c'est l'expert qui décide. Et donc, dans le cas de Sarlat, c'était une restauration. Alors, dans notre jargon, on appelle ça, on dit c'est la totale. Donc, pour faire simple, entre un relevage et une restauration, en termes de nombre d'heures ou de coûts, hein, c'est multiplié par 7, 8, 9, 10. Ça n'a rien à voir qu'on travaille. C'est-à-dire qu'un relevage, on va faire le minimum syndical pour que tout fonctionne correctement. Alors que la restauration, on prend tout de A à Z, on emmène tout l'atelier, sauf le buffet, parce que le buffet est tellement grand que parfois il y a plus de mal que de bien quand on démonte, il peut y avoir de la casse. Parfois pas, donc parfois on démonte, ça dépend de la taille du buffet aussi. On emmène tout l'atelier, on revoit tout de A à Z, et surtout dans le terme restauration, parce que souvent les orgues, contrairement à la plupart des autres instruments de musique, ont été modifiés au cours des temps. C'est toujours comme ça. C'est malheureux. Pourquoi je dis que c'est malheureux? Parce que quand ils ont été modifiés au 19e, au 20e, etc., on se dit, ouais, c'est super, on apporte quelque chose de supplémentaire. Seulement, on dénature l'instrument. Et on se rend compte qu'au bout de plusieurs restaurations qui s'écoulent sur 200, 300 ans, on a complètement perdu le sens de l'instrument. C'était un petit peu ce qui était arrivé avant l'intervention Catio. Enfin, on en parlait plus que moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans l'idée de restauration, c'est de revenir, alors soit à l'état d'origine, quand il n'y a pas d'ambiguïté, soit à un état que l'expert aura lui-même défini. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que le problème de la restauration, imaginez qu'un orgue du 17e, qui a été construit par un facteur qui mérite d'être classé, c'est un facteur connu, il faisait de la qualité, l'orgue est super. Très bien. Au 19e siècle, il y a un gars, par exemple Cavé École, je parle de lui parce que c'est quelqu'un de très connu, qui transforme considérablement l'instrument, donc ça n'a plus rien à voir, sauf que les parties Cavé École sont aussi classées, et en plus il a fait du bon boulot, mais dans un style qui n'a rien à voir. Ben on fait quoi? Et c'est toute la problématique des restaurations d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a deux solutions. Soit on se dit, ben on revient au Cavé École ou on revient à l'orgue 17e, très bien, on aura un orgue parfaitement homogène, mais par contre, on fait abstraction de l'autre qui a fait aussi de la qualité. Et ça va au pire au musée ou au fin fond d'un atelier de facture d'orgue pendant des décennies. Ou l'autre solution, c'est de faire, on va faire l'entre-deux. Donc on va conserver les pièces du 17e, mais aussi les pièces du 19e. Le problème, c'est que très souvent, on arrive dans un résultat sonore qui est complètement incohérent. Parfois, c'est cohérent, mais c'est très difficile. Donc, c'est tout le problème de la restauration aujourd'hui. Contrairement, j'aime à dire, à une toile, par exemple, d'un grand maître, ça n'est que visuel. Mais nous, on est dans le son. C'est-à-dire que même si on ne regarde pas la toile, on a les oreilles, on ne peut pas se boucher les oreilles. Donc, le son, on l'a tout le temps. Donc, on peut fermer les yeux pour une toile. Mais un orgue, c'est un instrument de musique, on ne peut pas fermer les oreilles. Donc forcément, on est contraint par ce qu'on entend. Et voilà, donc il y a plusieurs écoles dans la profession, il y a des modes, il y a des... Alors aujourd'hui, la tendance, parce que ça change tous les 10 ans, 15 ans, 20 ans, de manière progressive, la tendance, c'est de dire « on conserve ». Voilà. Et j'ai même eu des cas où les experts, parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec les experts, hein, faut pas non plus... parfois on est d'accord, parfois pas. Hein. Les experts, à mon sens, ont fait des choses incohérentes en disant « on garde des éléments qui sont quand même douteux ». Bon, ça c'est un autre débat, mais je voudrais pas être à l'espace des experts, en fait. Donc voilà, il faut faire des choix. Donc l'histoire, les époques, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure aussi. Voilà. Si on prend par exemple l'orgue de Notre-Dame, c'est un orgue qui a été modifié. Les traces les plus anciennes datent du 15e. Hein. Bon, il y a très peu de choses, il y a une quinzaine de tuyaux qui datent du 15e siècle. Mais c'est un orgue qui a été modifié, alors j'ai plus le chiffre exact, mais au moins 40 fois. Au moins 40 fois. Donc c'est... Mais c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un instrument qui reflète, quand on l'ausculte de près, on voit toutes les époques qui se sont produites. Et ça, c'est passionnant pour un facteur d'orgue. Voilà. Alors, évidemment, le facteur d'orgue, il est chef d'entreprise. C'est ce que je disais au tout début de l'intervention. Il faut aussi remplir le frigo. Voilà. Payer les salariés. Donc, on a plusieurs compagnons. Alors, ce qu'on appelle les compagnons, dans notre jargon à nous, c'est pas des compagnons du Tour de France. Tour de France, ça n'existe pas chez nous. C'est comme ça, ça n'existe pas. Un jour, on m'a posé la question, je dis, je ne sais pas pourquoi, mais c'est les ébénistes, les maçons, les je sais pas, ils ont tous une possibilité de compagnonnage. Nous, ça n'existe pas. Mon explication, je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est un départ d'explication, c'est que le facteur d'orgue, c'est quelque part, c'est un itinérant. Donc, en fait, il fait son propre Tour de France de toute façon, puisqu'on voyage, on fait des orgues un peu partout. Moi, personnellement, j'ai des orgues dans le nord de la France ou dans le sud, parfois à l'étranger. Donc, quelque part, on le fait, notre Tour de France, au fil des années. C'est une explication. Je ne sais pas si elle vaut ce qu'elle vaut. En tout cas, ça, peut-être aussi parce qu'on n'est pas assez nombreux. C'est peut-être ça aussi. Certainement plusieurs facteurs. Donc, le rôle du chef d'entreprise, c'est de payer les salariés, de rechercher les contrats, Je vais même dire souvent que chez l'entreprise, en facture d'or, comme dans d'autres métiers, tous les métiers de l'artisanat, on est quelque part, moi je me sens demandeur d'emploi en permanence. C'est-à-dire qu'en permanence, il faut aller chercher le client, tout le temps. Donc c'est un peu, je ne veux pas dire que c'est stressant, parce que bon, on s'y fait, mais c'est de se dire, demain, est-ce que j'aurai du boulot, quoi. On ne sait pas. Donc il faut tout le temps aller à la pêche. Donc c'est un peu compliqué. Donc on répond en général à des marchés d'appel d'offres. Parfois privés, mais c'est quand même assez rare. C'est des marchés d'appel d'offres, national ou international. Bon, la plupart, c'est national. Donc c'est de la commande publique. Quand c'est des instruments classés, ça passe par les DRAC. Sinon, ça passe par les communes. Et souvent, il y a plusieurs parties, les institutions, les communes et les DRAC. Il y a plusieurs financeurs. Donc on peut faire des constructions neuves, j'en ai parlé tout à l'heure, des restaurations d'instruments de différentes époques, je pourrais rajouter de différents styles, et puis l'entretien, voilà. La situation de la profession en 2023, alors, on va parler ça, même si c'est peut-être moins passionnant, je ne sais pas. Alors il y a en France 65 facteurs d'orgue en exercice pour entretenir et restaurer 8700 orgues. Alors, juste 3 secondes sur ces deux chiffres, 65 et 8700. Le 65, souvent posé la question, vous êtes combien en France? Je suis incapable d'y répondre. Pourquoi? Parce que je parlais de Jean-Loup Boisseau tout à l'heure, qui était un de mes maîtres. Jean-Loup Boisseau, à 80 ans, il travaillait encore. Officiellement, change d'apparat, il était inscrit à la chambre de métier. Il devait travailler une heure par semaine. Bon. Est-ce qu'il est facteur d'orgue? Oui. En plus, c'était quelqu'un qui avait un tel savoir. Oui, il est facteur d'orgue. Enfin, est-ce qu'il était capable de faire des orgues à cet âge-là? Un petit doute. Bon. Donc, est-ce qu'il fait partie des 65 ou pas? Bon. Vous avez aussi des gens, des bricoleurs. Moi, j'ai vu des... Par exemple, si vous regardez l'annuaire, vous avez des classifications. Et comme on est peu nombreux, nous, les facteurs d'orgue, on est classés parmi les instruments de musique, alors piano, clavecin et orgue. Je crois que c'est un truc comme ça. Et il y a des gens qui font l'amalgame, qui sont persuadés que quand vous allez acheter une partition au magasin de musique du coin, ils sont facteurs d'orgue aussi. Bon, pour plein de raisons. Et puis c'est pareil, il y a aussi, ça c'est la tendance d'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ouvriers qui décident de franchir le pas, de partir pour s'installer à son compte, tout seul, et d'y rester. Je rappelle que quand même, que pour construire un orgue tout seul, c'est pas possible, il faut être plusieurs. C'est tellement gros. Alors, est-ce que c'est des facteurs d'orgue? Oui, c'est des facteurs d'orgue. C'est des gens qui ont un savoir, qui ont de l'ordre dans les doigts. Oui, c'est des facteurs d'orgue. Donc, pour répondre à cette question 65, moi, je vais tailler une fourchette plus large. On est entre 50 et 100. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Le chiffre de 8700, c'est un chiffre que j'ai eu aussi par le groupement des facteurs d'orgue il n'y a pas longtemps, qui parle aussi de ce chiffre-là. Moi, je me souviens, quand j'étais buté dans le métier, on m'avait dit qu'il y a 12 000 orgues. Bon. Parce qu'il y a aussi des orgues privées. Ils ne sont pas forcément pris en compte. Quand je dis orgue privée, ce n'est pas forcément l'orgue d'études à la maison. Moi, un de mes derniers orgues, on verra la photo tout à l'heure à la fin, à Celles-sur-Belle, tout près de Niort, pour ceux qui connaissent. C'est un orgue très gros, encore plus gros que celui de Sarlat. C'était une fondation privée. C'est un orgue privé. Et pourtant, c'est un orgue énorme. Bon, donc 8700, moi je dirais comme à mon avis, on est plus proche des 12 000. Voilà. 1590 classés monuments historiques, je suppose que ce chiffre est assez réel. Moi, je sais que quand j'étais jeune, on m'avait dit qu'on a 1000, 1200, on ne sait pas trop. Quand il y en a de plus en plus, ce chiffre est cohérent. Alors, les entreprises sont majoritairement des TPE, très très TPE. je parlais des gens qui travaillent tout seuls. Pour vous dire, les deux plus grosses boîtes en France, parce qu'à l'étranger, c'est un petit peu différent, il y en a deux qui ont à peu près le même nombre de salariés, c'est 17 salariés. Donc pour nous, dans nos métiers, 17 salariés, c'est l'usine, presque. La majorité des entreprises, il y a entre 4 et 10 employés, la grosse majorité. Le chiffre d'affaires, je ne connais pas ce chiffre, oui, c'est possible, oui, 15 millions d'euros, ce qui n'est pas forcément énorme. 91% de l'activité des facteurs d'orgue était nationale en 2021. Alors ça, c'est pareil, c'est un chiffre qui est complètement en montagne russe. Parce que tout dépend si on fait du neuf, est-ce qu'on fait de la restauration, Est-ce qu'on a des opportunités à l'étranger? Il y a des années où j'ai des collègues qui font plein d'orgues à l'étranger, puis l'année d'après, non, au zéro. C'est très fluctuant. Je sais qu'en 2022, je crois que c'est ça, c'était plus proche des 60-40. Donc vous voyez, ça varie vraiment. Mais il y a toujours une petite activité à l'étranger. Là, les 9% qu'on trouve, j'ai envie de dire qu'il y a tout le temps au minimum 9% à l'étranger. Nous, on a fait quelques orgues à l'étranger. On a fait 4 instruments en Suisse. Quand je dis fait, c'est soit restauré, soit neuf. On en a fait un à la Guadeloupe. C'est la France. La France, c'est l'autre bout du monde. Est-ce que c'est l'étranger? C'est la France. Mais c'est loin. Voilà. Mais certains, moi j'ai des confrères qui travaillent beaucoup en Corée, par exemple. C'est la grosse tendance en ce moment, les pays asiatiques. Bon, allez savoir pourquoi. C'est de plus en plus catholique là-bas, donc c'est peut-être la raison, je ne sais pas. Les USA, il y a beaucoup d'orgues aux USA, au Canada, beaucoup. En Allemagne, évidemment, c'est le pays des orgues, hein, n'en parlons pas. Les pays nordiques, Finlande, Norvège, etc., ça se fait de plus en plus aussi. Espagne, Italie, bon, bah, ils ont moins de moyens que nous, donc, et puis c'est des instruments plus petits. Bon, il y a des choses qui se font, mais en tout cas, nous, en français, pour aller travailler en Espagne ou en Italie, c'est compliqué. Quoi, parce que la main-d'œuvre étant moins chère là-bas, bah, on n'est pas concurrentiel. Quoi, c'est toujours le même truc, hein, l'histoire du frigo. Hein. Oui, j'essaie de faire bref. Donc, la part de la commande publique, région, présente 64% du chiffre d'affaires, bon, je passe. Bon, vous avez lu, hein, je passe. On m'a dit qu'il faut que je fasse bref. Donc, les sports, bah, 9%, j'en parlais. Voilà. 255 classes d'orgue en France, école de musique et conservatoire. Bon, c'est bien, c'est beau. Hein. C'est beaucoup mieux qu'il y a 40 ans, hein, je pense. Hein. Il y a même des classes, des écoles de musique dans des villages, on voit ça, hein, avec une classe d'orgue. Hein. C'est étonnant. C'est même paradoxalement, j'ai envie de dire que c'est étonnant qu'il n'y ait pas plus d'écoles de musique en ville. Le rapport est, je trouve, j'ai l'impression qu'il y a plus en plus d'écoles de musique à la campagne, et peut-être, bon, par rapport au nombre d'habitants, évidemment, beaucoup moins en ville. 2000 associations directement liées aux instruments. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations. Souvent, ça s'appelle les amis de l'orgue, etc. 1000 concerts par an et 500 000 auditeurs réguliers, bah ça c'est formidable aussi. Hein. Même si c'est vrai que les concerts d'orgue, souvent on se plaint qu'il n'y a pas assez d'auditeurs. Mais bon, moi j'ai juste souvenir deux anecdotes. Michel Chapuis, vous avez entendu parler de Michel Chapuis. Il y a très longtemps, je me souviens d'un concert qu'il a donné à la cathédrale de Poitiers, qui est un orgue mondialement connu, encore plus connu que celui de Sarlat, 40 personnes. À l'époque, j'ai aimé à dire, avec humour, hein, vous faites venir l'orchestre philharmonique le plus minable du fin fond de, je sais pas où, de la Russie, vous faites ça de comble. Hein. Bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est l'orgue. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, ben voilà, venez au concert. Voilà. Et autre anecdote, encore bien pire, c'est un jour, je vais à un concert à Vierzon, un orgue qui avait été restauré. L'organiste que je connaissais, c'est un ami, hein, il y avait 8 personnes dans l'assemblée. Et sur les 8 personnes, il y avait moi, mon épouse, mes deux filles, le fameux Jean-Loup Boisseau, j'ai parlé tout à l'heure, facteur d'orgue, sa femme, Virgile, mon apprenti de l'époque. Voilà. Bon. Il faut dire qu'il y avait de la concurrence parce qu'il faisait beau et il y avait un match de catch à l'extérieur. Et là, c'était plein. Et d'ailleurs, pendant son improvisation, on entendait les commentaires, c'est très drôle. Bon, c'est une parenthèse. Alors là, je vais essayer de faire vite parce que c'est... Ouais, les styles d'orgue, j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, on parlait de l'orgue français, l'orgue italien, etc., etc., les époques. Alors l'orgue classique, ce qu'on appelle l'orgue classique français, c'est le terme plus ou moins officiel, c'est effectivement de la période de 1670 à fin 18e. Pour faire simple, comme vous le savez, fin 18e, il y a eu un truc qu'on appelle la Révolution. Ça a complètement chuté l'industrie, les constructions de tout azimut, et notamment les orgues, évidemment. Et il ne s'est rien fait pendant 40 ans. Et c'est pour ça qu'au 19e est apparu le fameux Cavaillé-Coll, qui, entre autres, il n'était pas le seul, hein, qui a qui a changé radicalement de style au niveau de la facture, et évidemment suite à la demande des musiciens qui voulaient entendre autre chose. Donc là, on a un orgue qui est très prestigieux, c'est à Sainte-Croix de Bordeaux. C'est un orgue qui a été restauré par un confrère, Pascal Corin, il y a pas mal d'années déjà. Donc c'est un orgue extraordinaire. Voilà. C'est un peu comme ça là au niveau style, mais plus gros et plus prestigieux, puisque c'est un orgue qui a été construit par un certain François Bedos de Selles, qui était un moine bénédictin, qui, à la fin du XVIIIe, a écrit un... Alors, c'est pas lui, hein, c'est tous ses copains moines, hein, disait un certain nombre, a écrit un ouvrage qu'on appelle « L'art du facteur d'orgue », c'est un truc qui est épais comme ça. Et quand on lit cet ouvrage, on l'a tous à la maison, moi j'ai un facsimilé, c'est évidemment pas un original, parce qu'il y en a très peu dans le monde. À partir du moment où on est un peu à droite de ses mains, on lit le bouquin, on est capable de construire un orgue. Oui, non, mais il faut un peu d'expérience. Mais théoriquement, voilà, théoriquement. C'est juste pour dire qu'il explique vraiment toutes les facettes de la construction d'un orgue. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc ça, c'est l'orgue dit de Dom Bedos, parce que Dom Bedos, c'est the référence, voilà, dans le monde de l'orgue classique français. Et c'est lui qui aurait construit cet orgue à l'époque. Un instrument diamétralement opposé, là je parlais de cavéicole tout à l'heure, ben justement c'est un cavéicole celui-là, c'est à Paris, à l'église Saint-Sulpice. J'ai plus la date exacte de cet orgue, ben, non c'est pas 1840, j'ai plus la date, je l'ai plus en tête. Bon, on va dire c'est milieu 19e. Un orgue énorme, il y a plus de 100 jeux. Ben, ça là, il y en a 35, vous dites 35. Voilà. Il y a plus de 100 jeux, et surtout, c'est des gros jeux, des jeux qui, très graves, qui prennent beaucoup de place, forts, gros, énormes. C'est absolument énorme. Alors, on le sait pas, mais dans cet orgue-là, moi, je l'ai visité, il y a 5 étages. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 étages, il y a des allées partout, il y a des escaliers. C'est comme une maison, hein, dans l'orgue. Hein. Et pourtant, c'est plein comme un œuf. Hein. C'est énorme, absolument énorme. La console de l'organiste se trouve, elle est cachée derrière un faux positif de dos. Donc ça, c'est caché, et la console se trouve derrière, là. Voilà. L'orchestre des 16 000 orchestres, bah, tout ça, je l'ai plus ou moins dit un petit peu tout à l'heure. Saint-Sulpice à Paris. On a Saint-Sernin de Toulouse aussi, qui est cité là, pas très loin d'ici, qui est un orgue aussi construit par le cavéicole, plus tardif. Là, c'est un style, ce qu'on appelle romantique. À Saint-Sernin, c'est un style plutôt symphonique. Donc l'idée, c'est que musicalement, on a plutôt des effets de masse. Et vraiment, on veut imiter l'orchestre symphonique. Alors que là, on veut imiter l'orchestre romantique. C'est pas tout à fait la même chose. C'est beaucoup plus puissant, plus des effets de masse. Voilà. C'est un bel orgue aussi, hein, si vous avez l'occasion de l'entendre. À l'occasion du Festival Toulouse les Orgues, hein, qui est un festival très connu. Hein. Et j'ai entendu la radio au début de la semaine, Toulouse a été déclarée la ville de je sais plus quoi de la musique. Je sais plus quoi, un truc comme ça. Je sais plus, enfin il y a pas longtemps. Alors là, bon, on voit au niveau visuel, on est dans un autre monde où en fait il n'y a quasiment pas de buffet. L'époque néoclassique où l'idée. Alors faut penser qu'on est là, on est entre deux guerres. Il n'y avait plus d'argent, donc c'est une recherche stylistique sonore, certes, mais aussi économique. Le fait de ne pas avoir du buffet. Certains diront, oui, c'est vraiment ça qu'il fallait, c'est une recherche. Non, c'est essentiellement économique. Ça, c'est la conséquence. Mais c'était pas, le but, ce n'était pas de faire des orgues sans buffet. C'est une conséquence. Mais il se trouve qu'à cette époque-là, bah, sauf les endroits où il y avait beaucoup d'argent, les buffets d'or, enfin, il n'y a pas de buffet, quoi. On voit des tuyaux. Voilà. Que dire, c'est intéressant. Ah, zut. Zut. Ah, voilà. Je me suis encore trompé de bouton. Là, c'est intéressant parce qu'on voit en façade des tuyaux de bois aussi. Et des tuyaux de métal. Voilà. Oui. Oui, je ne connais pas. Ce serait Arras ?
Non, c'est Albert.
À côté d'Amiens.
Albert ? Ah, d'accord. Je ne connais pas tous les orgues. Hein. D'accord.
Moi, je l'ai joué.
Ah oui ? Ah, d'accord. Donc, l'idée de l'orgue néoclassique. Je rappelle, au 18e, 17e, 18e, c'était l'orgue vraiment classique, alors je parle de la France, évidemment. Au 19e, on a changé radicalement de style musical, par les facteurs d'orgue, mais surtout par la demande des musiciens de l'époque, César Franck, par exemple, ou plus tard, Vidor, pour ceux qui connaissent. Et après-guerre, ben, on en avait un peu marre de tout ça. On a voulu revenir à du classique, tout en gardant les apports du 19e, c'est ce qu'on appelle l'orgue néoclassique. Donc on mélange les deux styles. Mais avec des techniques de l'époque, plus ou moins douteuses, encore une fois, je le redis, il n'y avait pas beaucoup d'argent, donc il fallait trouver des solutions. Et aujourd'hui, on fait encore de l'orgue néoclassique, mais par contre de qualité. Ça n'a plus rien à voir. C'est pour ça que c'est un mot néoclassique, on va dire, qui est pas forcément bien perçu aujourd'hui. Quand on dit orgue néoclassique, les gens boudent un peu, parce qu'évidemment, ils pensent à ce genre d'orgue. Après, on peut aimer aussi ce genre d'orgue, c'est pas la question. Mais c'est simplement que je vois bien, moi, en tant que facteur, que c'est des orgues qui, au niveau de qualité, je parle pas des choix sonores, ça c'est une affaire de goût, au niveau de qualité des matériaux, bah, on est un cran en dessous quand même, c'est une régression. Et tout ça, c'est, la qualité est revenue dans les années 70, grosso modo, où on s'est rendu compte que, bah, oui, on peut faire du néoclassique, mais avec des beaux matériaux. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. Et le beau matériau joue aussi sur le son. Donc on a amélioré le son encore. C'est l'orgue d'aujourd'hui. Voilà. Donc là, on est encore dans du néoclassique. Donc à gauche, je le connais, c'est la cathédrale de Limoges. À droite, je ne connais pas.
La cathédrale Notre-Dame-de-la-Tech, c'est l'ancien orgue de la salle de concert de Radio France.
Ah, et d'accord.
Acheté 1 euro.
Ah, ben oui c'est lui. Ah, ben, je ne l'avais jamais vu. D'accord. Bon, ben, voilà. Après, on voit bien dans les deux cas, d'ailleurs, surtout plus peut-être celui de gauche, on voit qu'il y a quand même une recherche visuelle. Hein. C'est pas mis n'importe comment les tuyaux. Hein. Je trouve qu'il y a quelque chose quand même dans ce visuel. Il y a quelque chose d'intéressant. Voilà. Et puis bon, là, forcément, bon, ouais. Ça c'est un de mes derniers que j'ai fait avant de reprendre l'entreprise de Catio. Ça c'est à Celles-sur-Belle, tout près de Niort. Qui a un orgue, on va dire, je ne veux pas employer le mot néoclassique, mais un orgue un peu à tout jouer. Voilà. Ce qui veut dire quasiment la même chose. Voilà. Donc là, c'est un projet particulier en ce sens que on n'était pas entre deux guerres, mais par contre, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Donc en fait, donc c'est privé. Quand la personne est venue à l'atelier me présenter le projet, il a déballé un plan sur un établi, donc il y avait une photo, enfin un plan d'orgue, qui n'était pas du tout celui-là, mais un plan imaginé par le client. Il dit je veux ça, on a tant d'euros, qu'est-ce que vous proposez? Voilà, ça s'est passé comme ça. Soit quand je leur ai dit vous voulez ça pour tant d'euros, ça va être compliqué. Hein. Donc j'ai essayé de trouver des solutions, et parmi les solutions, il se trouve dans le village de Celles-sur-Belle. Le président de l'association qui était responsable des finances, et c'était un ancien, enfin non, c'était pas un ancien forgeron, mais il avait une connaissance, il connaissait une dizaine de forgerons. À Celles-sur-Belle, personne ne le sait, mais à une époque, il y avait 7-8 forgerons là-dedans. Une ville de forgerons, c'est bizarre. Plus ou moins tous à la retraite, et ce que j'ai trouvé formidable, c'est juste une aparté, hein, plus ou moins à la retraite, et tout, passionné, évidemment, et tous ces gens-là, tous les mercredis, de telle heure à telle heure, toutes les semaines, ils se retrouvent pour forger ensemble, faire une partie de rigolade, boire un coup. C'est formidable. Et donc, moi, j'ai dit au président, est-ce qu'on pourrait pas faire intervenir ces gens-là, qui ont fait toutes les parties forgées, bénévolement. Donc, toutes ces parties-là, c'est du fer forgé. Ça, 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 ça. Et donc, en fait, on a fait un travail d'équipe entre moi, qui a proposé un visuel, eux qui ont proposé un visuel aussi forgé, et tout ça, on a travaillé en commun, et on a fait un truc qui, pour moi, est plutôt pas mal. Voilà.
Dans quelle année vous avez fait ça?
2018, par là. Peut-être 2017-2018, par là. Je rappelle, c'est un gros orgue. Hein. On voit par la taille de la console, un homme, c'est haut comme ça. Hein. On voit la taille de l'orgue. Hein. Voilà. Et ça a été compliqué pour moi, parce que pour plein de raisons, financières notamment. Et par exemple, tous les tuyaux de façade, tous les tuyaux sont des tuyaux d'occasion. Hein. Il n'y a aucun tuyau neuf dans cet orgue. Hein. C'est que des tuyaux d'occasion, en récupérant une façade d'un orgue qui n'avait rien à voir avec cette physionomie. Donc il a fallu... trouver des astuces et bidouiller. Voilà. Bon, j'ai terminé mon propos. Je vous propose de passer s'il y a des questions. Voilà.
Oui, alors, une question. Du coup, vous parlez des abrégés, mais vous parlez qu'il y avait un abrégé pour un clavier. Donc, il y a un abrégé pour chaque clavier. Si, par exemple, il y a quatre claviers, il y a quatre abrégés, voire plus, si il faut...
Alors, un abrégé, ça abrège la division du clavier vers une division plus haut, là où il y a les tuyaux, qui est différente, qui est toujours plus large. Donc, un abrégé, c'est l'ensemble de la mécanique qui permet... d'abréger cette division. Donc effectivement, très bonne question. Comme disait je ne sais plus qui, je vous remercie de la poser. Ça permet de réfléchir à la réponse pendant ce temps. C'est pas Georges Marchais ou... Bon, bref. Et en fait, les deux réponses sont dans la question. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a à minima un abrégé par clavier, on dit plan sonore. Mais parfois, quand le plan sonore est gros ou quand il faut aller chercher les notes trop loin, il peut y avoir plusieurs abrégés par clavier. Mais il y a toujours au minimum un abrégé par clavier.
Moi, je vais m'en permettre une. L'orgue, les grandes orgues de Notre-Dame de Paris.
Oui.
Vous y avez travaillé ?
Oui.
Vous pouvez nous en parler un tout petit peu, et nous dire où on en est.
Je m'attendais à cette question.
Je ne l'avais pas préparé d'avance.
D'abord, on était tous tristes de l'événement, évidemment. Alors, ça s'est passé en... Donc, j'ai la chance d'y travailler, encore aujourd'hui. Ça s'est passé en deux temps. Le premier temps, c'est que... Avant de prendre la décision de démonter cet orgue, enfin de le restaurer, il fallait prendre la décision très très rapidement de le démonter pour le protéger. Et donc, selon le général Georges Lain, nous avons été réquisitionnés. Voilà, on est bien chez les militaires, c'est une réquisition. Donc on nous a obligés, on nous a dit, c'est vous, vous n'avez pas le choix, vous démontez l'orgue. Il n'y a pas eu de marché d'appel d'offres. Pourquoi nous ? Tout simplement parce que depuis des décennies, on entretient cet orgue. Moi, pour ma part, en 92, j'étais très jeune, donc j'ai participé à la grande restauration de 92, parce qu'il y en a eu d'autres, mais des plus petites, en 2012 et 2014. Moi, j'avais participé à la grande restauration de 1992. Bertrand Catiot, mais je n'étais pas encore dans l'entreprise à l'époque, j'étais installé, mais ailleurs, en gardant des contacts, a restauré petitement, donc il a fait moins de choses qu'en 92, en 2012 et 2014. Et puis là, du coup, suite à cette réquisition, donc on a démonté l'instrument. Et c'est vrai que ça fait un choc. Donc pour répondre à la question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il est vraiment abîmé ? Je vais dire oui et non. Non, parce que heureusement, il n'y a rien qui a brûlé. Mais on était à deux doigts de la cata. Pour dire, en général, les organistes mettent un petit tissu sur les claviers pour le protéger de la poussière. Pas toujours, mais souvent. Et sur ce petit tissu, il y a des flamèches, un petit tissu fin, qui ont traversé le tissu. Ça veut dire qu'il y a des trucs qui sont tombés à 1,50 m de l'orgue. Donc on était à deux doigts de la cata. Bon, heureusement, rien n'a cramé. Il y avait des sondes à l'intérieur qui permettent de nous dire... Alors, les sondes ont déconné. Bon, on ne sait pas pourquoi, mais ça a déconné. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est qu'il a fait moins de 60 degrés dans l'orgue. Bon, déjà, c'est déjà ça. Parce que c'était là-haut, c'était pas la même chanson. Hein. Après, donc quelque part, rien n'a été abîmé, mais en même temps, très infesté par ce fameux monoxyde de plomb. Je rappelle, le plomb, à un moment donné, à une certaine température, il part en fusion, et à partir de, je ne sais plus, 500 ou 600 degrés, il se transforme en vapeur. C'est ce qu'on appelle le monoxyde, ou le dioxyde de plomb, il y a les deux termes. Et ça, c'est hyper toxique. C'est 10 fois plus toxique que le plomb, même en fusion. Et donc, ça s'est transformé en vapeur. Et donc, c'est parti partout dans la cathédrale, y compris dans les moindres recoins. J'ai même vu des pièces qui étaient fermées à clé et c'est passé sous la porte, partout. Et donc dans l'orgue, les moindres recoins, le moindre millimètre carré, il y avait ce fameux monoxyde de plomb, qui visuellement, c'est une poussière extrêmement, un peu comme un sable extrêmement fin, encore plus fin qu'au Sable d'Olonne, et gris-jaune, enfin un truc vraiment pas agréable à voir, quoi. Et c'est vrai que quand on rentre, moi quand je suis rentré la première fois là, c'est lunatique, on se croirait sur une autre planète. C'est triste, c'est gris, c'est une espèce de poussière très lourde, hein, très fine et très lourde. Et donc, comme c'est hyper toxique, bah, il fallait enlever tout ça. Et ça ne se nettoie pas comme ça, un orgue. Hein. Surtout, je rappelle, il y a des recoins partout. Donc, la solution, c'était de tout démonter de A à Z. C'est ce qu'on a fait. Donc, ça a coûté très cher. Dans nos travaux, on n'a pas tout à fait terminé, mais quand on aura terminé, on évalue à 50 000 euros. 50 000 heures. 50 000 heures de travail. Ce qui est colossal. C'est colossal. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, on a démonté l'instrument. Comme l'instrument est très, très gros, on s'est associé à trois entreprises, donc la mienne et puis deux autres. Chacun a fait sa partie. Bon, nous, on s'est surtout occupé du démontage, bien sûr, mais surtout de la restauration des tuyaux. Donc, les fameux 8000 tuyaux, on les a tous passés en revue. On a remonté l'orgue et puis là, c'est un petit peu en stand-by en ce moment. On attend qu'on nous ordonne parce que c'est encore l'état militaire. C'est-à-dire qu'ils nous disent, la semaine prochaine, vous venez, on y va, c'est comme ça. C'est que vous ayez d'autres clients ou pas. Bon, c'est comme ça. Donc on attend, mais on sait à peu près quand on va y retourner. Donc pour ce fameux travail d'harmonisation qui va se faire en deux temps, parce que là, l'orgue, ça y est, tout est remonté, tout est... Donc ça va se faire, il y aura une première étape au printemps 2024 et une deuxième en automne 2024.
Bon, eh bien, merci beaucoup. Nous verrons l'orgue d'une autre façon. Nous aimons l'entendre, n'est-ce pas? J'espère que vous fréquentez beaucoup l'orgue de Sarlat et nous avons mieux compris comment ça fonctionne et on vous en remercie.
Merci à vous.
Je vous en prie.